Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine d'actualité internationale de France Culture. Une émission préparée avec Léa Capuano, Bertille Bourdon, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi, réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Élise Leu. Comme chaque vendredi, notre séquence « Retour de terrain » dédiée au reportage avec aujourd'hui Marie Linton qui revient du Japon. Et puis notre table ronde d'actualité en partenariat avec le journal Le Monde avec aujourd'hui Marion Dupont qui remplace Marc Semo et qui nous accompagne pour co-animer la discussion. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Nous parlerons ce matin de la Syrie, 13 ans après le soulèvement du printemps arabe, sa répression puis une guerre qui a laissé le pays exsangue. La Syrie est désormais un pays fragmenté. Malgré sa réhabilitation dans le giron de la Ligue arabe il y a un an, le régime Assad ne contrôle plus que 2/3 du territoire et apparaît plus que jamais dépendant de ses parrains russes et iraniens. Qui dirige vraiment la Syrie? Dans quelles conditions survivent ses habitants? Quelles répercussions de la guerre à Gaza dans un contexte régional très inflammable? Nous en discuterons avec nos invités. Ala Kodmani, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes journaliste à Libération. On vous doit notamment « Seul dans Raqqa » publié aux éditions des Équateurs en 2017, l'histoire de Nissan Ibrahim qui racontait sur Facebook le quotidien de la ville sous le joug de l'État islamique et qui est décédé dans ses geôles. Et à vos côtés, Christophe Ayad, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue également. Vous êtes grand reporter au Monde chargé des questions de terrorisme. Vous avez couvert le Proche-Orient pendant 2 décennies et vous êtes l'auteur de Géopolitique du Hezbollah aux presses universitaires de France qui paraît dans quelques jours. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, donc, place à notre retour de terrain. Bonjour Marie Linton.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, ancienne correspondante de France 24 au Japon. Vous venez de réaliser pour Arte un documentaire intitulé « Japon, la fin du pacifisme ?» Point d'interrogation. Vous y faites le récit de la façon dont le Japon est devenu, après la Seconde Guerre mondiale et après Hiroshima, l'un des rares pays au monde à avoir officiellement renoncé à la guerre. Un principe inscrit dans sa constitution, le fameux article 9 qui stipule, je cite, « Le peuple japonais renonce pour toujours à la guerre en tant que droit souverain de la nation, à la menace ou à l'usage de la force comme moyen de régler ses différends avec d'autres pays. » Un principe d'État largement soutenu par la population qui nourrit depuis 1945 une profonde aversion pour tout ce qui relève du militaire, des armes et du nucléaire en particulier. Mais l'héritage pacifiste est aujourd'hui remis en question. Marie Linton, fin 2022, le pays annonçait une augmentation spectaculaire de son budget de la défense et certains y ont vu le clou, un clou de plus planté dans le cercueil du pacifisme. Comment les Japonais ont-ils réagi à cette annonce ?
Oui, bah c'est surtout ça, moi, qui m'a interpellée parce que quand j'étais correspondante au Japon, j'ai couvert notamment le long mandat de Shinzo Abe, qui est une figure nationaliste majeure du pays, et qui avait à l'époque réinterprété la Constitution, justement parce qu'il n'avait pas réussi à la réviser, parce qu'il y avait des manifestations vraiment impressionnante pour le Japon, qui sont pas forcément habitués aux manifestations de masse. Et là, ce qui était assez formidable et enthousiasmant, c'est que la jeunesse était descendue dans la rue. Il y avait le mouvement des cils, des étudiants qui manifestaient. Il y avait vraiment une grosse ambiance dans les rues de Tokyo, alors que là, aucune
réaction. Qui manifestait, pardon, pour bien comprendre, pour dissuader Shinzo Abe de toucher à cet article 9 et de toucher au pacifisme d'État.
Pour défendre la constitution pacifiste du Japon. Il y avait écrit « No war » partout dans les rues. Alors que là, en fait, aucune réaction. Et on voit, enfin, quand je suis allée au Japon, j'ai filmé des manifestations assez maigres, timides, assez tristes, faites uniquement de personnes âgées. Et je me suis dit, d'accord, en fait, là, le pacifisme n'est plus défendu par personne. Les Japonais ont tourné la page du pacifisme. C'était ça la grosse surprise.
Alors, moins de gens dans la rue. Il y a aussi des sondages qui montrent que l'opinion publique japonaise est de moins en moins hostile à l'idée d'un réarmement du Japon. Réarmement qui est de toute façon de facto en cours depuis quelques années. Est-ce qu'on a déjà des explications de ce tournant dans l'opinion publique ?
Alors, il y a un intervenant que je cite beaucoup dans le documentaire qui s'appelle Jeffrey Kingston, qui est un Américain assez libéral, et qui dit « Oui, il y a la Chine, Oui, à la Corée du Nord, mais ces menaces directes hein, pour le Japon sont présentes depuis la fin de la guerre froide, en gros depuis le début des années 90. Et il dit pour autant, jusqu'à présent, l'opinion publique a tenu et le Japon est resté fidèle à son pacifisme d'État. Là, ce qui change, c'est la guerre en Ukraine, en fait. C'est un peu l'effet domino qui s'est fait ressentir jusqu'au Japon, dans le sens où les Japonais se sont dit « Ah oui, en fait, la Chine, la Corée du Nord, c'est pas une blague, c'est pas que du bluff. Il peut y avoir une intervention directe sur Taïwan ou un embargo vraiment très fort, très agressif. Et dans ce cas, le Japon serait mécaniquement embarqué parce que les îles japonaises touchent Taïwan. Enfin, on est vraiment à une encablure de là. Voilà, donc ils se sont dit, nous, on serait embarqué dans la guerre directement. La menace est devenue très concrète, en fait.
La menace devient concrète, mais néanmoins, cette culture du pacifisme, elle est encore très présente dans la société. Vous filmez, par exemple, la façon dont chaque 6 août, pour commémorer la bombe qui est tombée à Hiroshima, les enfants inscrivent des messages de paix sur des petites lanternes flottantes qui sont mises à l'eau. Il y a des dates importantes, il y a des monuments, il y a des commémorations. Et puis, il y a aussi cette mémoire qui est portée et qui est incarnée par ceux qu'on appelle les Ibakusha.
J'avais 6 ans, le 6 août 1945, et j'étais en route pour l'école. J'ai vu 2 avions passer. Je les regardais quand j'ai été frappée par un énorme flash de lumière. D'instinct, je me suis protégée le visage avec le bras. C'est pourquoi j'ai été brûlée au front, au bras et au cou. Si la bombe atomique m'a seulement brûlée, c'est parce que je venais de déménager à 2,3 km de l'épicentre. À l'endroit où est tombée la bombe, on n'a même pas retrouvé les os des victimes. Tous mes camarades d'école sont morts. Je suis la seule à avoir survécu.
Toshiko Tanaka est une Ibakusha, une survivante des bombes de 1945. Les Ibakusha sont des militants historiques du pacifisme au Japon. Est-ce qu'ils sont encore aujourd'hui écoutés, influents, respectés ?
De moins en moins. La claque la plus récente, c'était en mai 2023. Donc j'étais au Japon à ce moment-là. Et le Premier ministre Fumio Fumio Kishida, qui est originaire d'Hiroshima, a tenu à organiser le G20 à Hiroshima, justement. Et en fait, le message de paix, on s'attendait à un message de paix phénoménal au moment où la Russie agite quand même des menaces nucléaires assez concrètes. On s'est dit, bon, bah là, voilà, il va prendre le leadership de la défense, de la dénucléarisation, etc. Et en fait, c'était un message assez timide. Et les Ibakusha ont été très déçus. C'était aussi un rappel du fait que le Japon, par exemple, n'a jamais signé le traité d'interdiction des armes nucléaires, qui était un combat porté vaillamment par les Ibakusha, ce qui leur a valu d'ailleurs d'obtenir le prix Nobel de la paix. Donc voilà, on voit que le message porte de moins en moins.
Et ce hiatus entre la population et les dirigeants, il n'est pas si récent finalement, c'est ce que montre bien votre documentaire, et que depuis 1946 et l'imposition par les États-Unis de cette constitution pacifiste, il y a eu régulièrement des entorses qui ont été faites. Est-ce que finalement les dirigeants japonais n'ont au fond jamais été très à l'aise avec cette interdiction de se réarmer et cet encadrement très strict des forces militaires au Japon?
Je pense que après-guerre, au contraire, il y a eu même les dirigeants conservateurs se sont dit la démilitarisation est une chance. On va se concentrer sur la reconstruction économique, et avec un succès énorme, puisque le Japon est devenu la deuxième puissance mondiale à la fin des années 60. Et donc, au contraire, au début, les dirigeants se sont dit, malgré la pression américaine qui disait « Venez nous aider dans la guerre en Corée, venez nous aider, la Chine est en train de a fait son premier essai nucléaire en 1964, par exemple. Et les Japonais disaient « Non, non, nous, on se concentre sur la reconstruction économique. » Mais il y a toujours eu, malgré tout ce que vous dites, c'est-à-dire une petite voix aussi au sein du camp conservateur qui disait un peu nostalgique de la puissance du Japon impérial, un peu voilà, qui n'a pas vraiment fait complètement amende honorable par rapport à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc il y a eu toujours ces petites voix dissonantes, mais la voix de l'appel a emporté jusqu'à la fin de la guerre froide, où là, finalement, le soutien inconditionnel des États-Unis s'est un peu effrité, parce que la menace communiste s'était effondrée aussi. Et donc, le soutien américain en cas d'attaque à l'encontre du Japon est devenu un peu contractuel. Enfin, le Japon a voulu, a douté du soutien américain, et du coup s'est dit, ah, il faut peut-être aussi qu'on réarme et qu'on assure une partie de notre défense nous-mêmes.
Alors, ce soutien américain, il est formalisé dans des traités et surtout dans des bases militaires qui sont dispersées au Japon. Il y en a 130, 55 000 soldats sur le territoire japonais. Je crois que c'est le plus gros contingent américain hors des frontières des États-Unis. Est-ce que aujourd'hui, et c'est ce que disent d'ailleurs ceux qui sont un peu critiques de cette alliance, le Japon est une sorte de base arrière militaire pour les États-Unis dans la région Asie-Pacifique?
Oui, complètement, et c'est pas du tout remis en cause. Même régulièrement, on remet sur le devant de la scène le pivot vers l'Asie, c'est-à-dire qu'il faut encore renforcer la présence américaine dans cette région du monde pour faire face à la montée de la Chine. Donc, voilà, non, c'est pas du tout remis en cause, et au contraire, surtout la région d'Okinawa, enfin le sud-est du... Pardon, le sud-ouest du Japon est occupé par de nombreuses bases américaines.
Et alors justement, dans cet archipel d'Okinawa, vous disiez ce n'est pas remis en question. Il y a quand même quelques voix, et vous les avez rencontrées, vous les avez filmées, qui s'inquiètent de la prolifération des bases nucléaires, qu'elles soient américaines ou japonaises.
Militaires, pas nucléaires.
Militaires, pardon, qu'elles soient japonaises ou américaines, comme cette militante dans l'archipel d'Okinawa.
En tout, il s'apprête à transformer une quarantaine d'îles en champ de bataille. On entend peu de critiques et peu de propositions alternatives à ces bases militaires. La guerre se prépare dans le silence.
Nous invitons les jeunes et les jeunes parents à nous rejoindre pour l'avenir de l'île. Nous ne voulons ni tuer, ni être tués.
Le témoignage de Setsuko Yamazato, une habitante de l'île d'Ishigaki dans l'archipel d'Okinawa, un archipel qui fut durement touché par la Seconde Guerre mondiale. Il faut se figurer cette manifestation que vous avez filmée. Il y a vraiment une poignée de personnes. Ils sont tous très âgés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Ishigaki?
Voilà, oui, je voulais préciser quelque chose, c'est qu'à Ishigaki, il n'y a pas de base américaine. Qui est très, très surprenant, c'est qu'en fait, ces îles... qui sont les plus proches de la Chine et de Taïwan, sont aujourd'hui défendus par des bases militaires japonaises. Et c'est ça la grande nouveauté, c'est-à-dire que le Japon, qui s'est toujours abrité depuis la Seconde Guerre mondiale derrière la défense et la protection américaine, aujourd'hui ce sont eux qui sont au contact avec la Chine et Taïwan, donc les zones les plus chaudes. Et ça, c'est très récent. Enfin, l'inauguration de... cette base était la dernière inaugurée, donc c'était l'an dernier. Voilà, donc c'est très, très récent. Et effectivement, ils inaugurent base après base, et ces bases sont japonaises. Voilà, donc moi, pour moi, c'est aussi un des signes du virage. Et l'autre signe du virage qu'on avait déjà évoqué tout à l'heure, c'est le fait qu'ils sont en gros une vingtaine à manifester d'une voix de plus en plus fébrile, puisque ce sont essentiellement des vétérans de la Seconde Guerre mondiale et leurs enfants qui manifestent. Donc fatalement, ils sont de moins en moins nombreux et de plus en plus inaudibles.
Et assez peu audibles. Si les Japonais s'inquiètent, il faut redonner un petit peu de contexte. C'est en raison notamment du développement des capacités militaires de leurs voisins chinois, mais aussi des conflits territoriaux, notamment dans les îles Senkaku, en mer de Chine orientale. Que se passe-t-il autour de ces îles qui sont donc administrées par le Japon, revendiquées par la Chine avec des incursions régulières de navires chinois aujourd'hui? Où en sont les tensions autour de ces rochers, puisque ce sont vraiment des rochers et personne n'y habite?
Oui, on a suivi un pêcheur, en fait un politicien qui a été obligé de se faire pêcheur pour avoir le droit d'aller sur ces îles Senkaku et qui veut documenter, faire connaître au monde entier le fait que tous les jours il y a des incursions des gardes-côtes chinois et des pêcheurs chinois dans la zone, sachant que les gardes-côtes, on le sait, sont militarisés, enfin ce sont des annexes de l'armée populaire de Chine. Donc ces incursions sont très récentes, enfin sont quotidiennes, et le Japon, face à cette situation, a une position un peu ambiguë, c'est-à-dire qu'il continue de faire profil bas. Ces îles, justement, vous le disiez, ne sont pas habitées. Le Japon interdit à quelconque citoyen de débarquer sur ces îles. Même, effectivement, le politicien n'a pas le droit d'y aller, sauf s'il justifie du fait qu'il a bien pêché. Donc, il doit à chaque fois montrer qu'il a bien ramené du poisson et qu'il n'y va pas juste pour mettre le feu aux poudres.
Et il en profite pour hisser le drapeau du Japon impérial sur son petit navire de pêcheur à chaque fois qu'il y va.
Oui, bien sûr. Bah, parce que lui, justement, il veut remettre en cause ce statu quo. Il dit, en gros, on est en train de se faire grignoter par la Chine, il faut affirmer, revendiquer que ce territoire nous appartient et arrêter de faire profil bas. Mais le Japon sait que ça peut l'emmener très très loin. C'est-à-dire que là, si on militarisait ces îles ou même si on les occupait, je pense que le Japon ne peut plus répondre de rien. Enfin, là, ce serait vraiment perçu comme une provocation.
Et une éventuelle militarisation de ces îles, elle pose aussi la question de quels moyens peut déployer le Japon, sachant que pour l'instant, ce sont des gardes-côtes qui sont sur zone et que le Japon n'a pas véritablement d'armée. Enfin, il a ce qu'on appelle des forces d'autodéfense qu'on hésite à qualifier d'armée, même si elles en ont de plus en plus l'aspect. Et justement, aujourd'hui, ces forces d'autodéfense, comment est-ce qu'elles se développent? Est-ce qu'elles essayent de recruter davantage? Vous filmez notamment une sorte de journée porte ouverte organisée par le ministère de la Défense où il y a moult démonstrations du matériel récemment acquis par ces forces. Quelle attraction exerce-t-elle sur la population japonaise aujourd'hui?
Assez faible aussi. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis la fin du pacifisme japonais avec un point d'interrogation. Je pense que le point d'interrogation, il est là. C'est-à-dire que malgré des annonces fracassantes, une augmentation du budget, enfin un doublement du budget militaire japonais, l'acquisition de missiles de Tomahawk, enfin beaucoup d'annonces, derrière les forces d'autodéfense japonaises n'arrivent pas à recruter, c'est-à-dire qu'elles sont en dessous de la moitié du contingent souhaité. Et c'est de pire en pire quand on montre que le Japon, enfin que les forces d'autodéfense sont de plus en plus une vraie armée. Ça décourage encore plus les vocations parce qu'on se dit, d'accord, donc en fait on risque vraiment de faire la guerre. Et donc il y a très peu de candidats, et le tabou absolu, ce serait par exemple qu'il y ait un mort japonais sur le front. Donc là, aujourd'hui, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de mort au combat. Et je pense que ça, c'est le tabou absolu. C'est-à-dire que le Japon augmente ses interventions à l'étranger. Par exemple, ils interviennent dans le cadre de l'ONU, etc. Ce qu'ils faisaient
pas. Mais toujours sur l'arrière.
Mais toujours à l'arrière. C'est-à-dire, voilà, sur des opérations, sur des missions de soutien. Toujours, on est plus loin le plus loin possible du front. Parfois même protégé par d'autres troupes, d'autres pays, parce qu'on peut pas vraiment riposter ou être armé. Ils étaient au Sud-Soudan. Ils sont partis dès que ça commençait à sentir le roussi. Voilà. Donc, on sent qu'il y a encore cette culture pacifiste qui résiste, et on n'imagine pas mourir au combat, puisque aujourd'hui il n'y a pas officiellement d'armée.
Voilà, donc on est vraiment dans une situation de zone grise totale.
Et de dilemme, et pour comprendre ces dilemmes japonais face au pacifisme, l'héritage du pacifisme. Marilyn Tone, votre documentaire « Japon, la fin du pacifisme » pour l'interrogation sera donc diffusé le 26 mars sur Arte à 22h45. Il sera ensuite à retrouver sur arte.fr. On fera un lien sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup d'être venu dans l'émission. Merci.
Merci à vous.
ああ素晴らしき世界に今日も乾杯街に飛び交う笑い声も見て見ぬふりしてるだけの作りもんさ気が触れそうだクラクラするほどのいい匂いがツッと刺した鼻の奥目を覚ます本能のまま今日は誰の番だこの世界で何ができるのか僕には何ができるのかただその
Et c'est avec le groupe Yoasobi, groupe japonais qui connaît un certain succès depuis la sortie de leur premier titre en 2019. On entendait Kaibutsu, le monstre, sorti en 2021. C'est sur ces notes qu'on quitte l'archipel du Japon, direction la Syrie.
France Culture, Culture Monde, Mélanie Chalandon.
Nous sommes ici pour commémorer l'anniversaire et réitérer notre volonté de renverser tous les tyrans contre ce peuple. Nous sommes ici pour appeler au renversement du régime d'Assad et pour renverser Al-Julani et le système de sécurité qu'il utilise contre nous et pour appeler à vider les prisons des prisonniers politiques.
Nous voulons un gouvernement démocratique choisi par les fils de la révolution.
Témoignage de manifestants dans la région d'Idleb, dans le nord-ouest du pays, qui commémorait en ce mois de mars les 13 ans du soulèvement de la population contre le régime Assad. Une révolution durement réprimée, suivie d'une guerre au bilan désastreux. 500 000 victimes, 7 millions d'exilés, des millions de déplacés internes et un pays en ruine. Il ne contrôle plus que 2/3 du territoire, mais soutenu à bout de bras par ses alliés russes et iraniens, ainsi que la milice libanaise du Hezbollah, le régime Assad se maintient au pouvoir. Il y a tout juste un an, la Syrie faisait même son retour dans le giron de la Ligue arabe après en avoir été exclue en 2011. Mais qui dirige vraiment aujourd'hui la Syrie? Comment les puissances régionales y exercent-elles leur influence? Quelles répercussions de la guerre à Gaza alors qu'Israël multiplie les frappes sur le sol syrien? Nous en discutons avec nos invités Ala Kodmani, journaliste à Libération, et Christophe Hayat, journaliste au Monde qui publie ces jours une géopolitique du Hezbollah qui nous est fort utile pour comprendre les interactions dans la région. À la Kodmani, à part à Idleb, où en Syrie et dans quelle ville, dans quel territoire et par qui le souvenir du printemps arabe a-t-il résonné? Dans quelle mesure a-t-il été commémoré?
Oui, Idleb, c'est intéressant quand on a entendu l'extrait parce que c'est à la fois maintenant une résistance contre, on est toujours en positionnement contre le régime, comme en 2011, mais aussi contre les nouveaux seigneurs de guerre et les nouveaux régimes localisés, on va dire, qui sont les milices islamistes au nord-ouest de la Syrie. Oui, il y a eu d'autres manifestations et c'était intéressant cette année parce que c'était pas le cas précédemment. On a la région de Soueda, qui est la montagne druze, qui mène alors une révolte pacifique, magnifique, depuis des mois. Je sais pas, ça a commencé en...
Depuis août, depuis... semble-t-il, avec la hausse du carburant.
Et qui ont repris dès le premier jour les slogan de 2011, démocratie, liberté, on veut pas de ce régime, etc. Et qui sont apparemment protégés, ils sont pas attaqués, ils sont pas réprimés. Et ça continue tous les vendredis, mais tous les jours, il y a des gens qui sortent. Hein, et évidemment, ils ont célébré les 13 ans la semaine dernière. Même chose, alors là, c'est encore plus étonnant, dans le berceau de la révolte syrienne, c'est-à-dire à Daraa, dans le sud donc. Daraa, qui est où il y a eu un accord entre le régime et les Russes et les rebelles locaux, enfin les forces armées locales, pour un arrangement de où on va cesser le feu en quelque sorte. Mais en fait, Daraa n'est pas passé sous contrôle de régime. Apparemment, les Russes sont proches de ces gens-là, hein, ils les laissent faire. Et là aussi, on a assisté à des manifestations et une mobilisation assez impressionnante pour fêter l'anniversaire, d'autant plus que bon, Daraa, c'est quand même le berceau, de là que tout est parti.
Christophe Ayad, on parlait, je le disais, d'un pays fragmenté. Est-ce que vous pourriez nous rappeler aujourd'hui quelle est la géographie du morcellement de la Syrie et dans les grandes lignes, qui dirige quelle part du territoire et quelles sont les différentes forces politiques et militaires en présence?
Alors vous avez quatre Syries. La Syrie d'Assad, qui en fait est essentiellement la Syrie de Poutine et de Khamenei, c'est-à-dire le territoire gouvernemental n'est pas vraiment sous le contrôle effectif du gouvernement syrien, mais plutôt de ses deux principaux alliés, l'Iran avec toutes ses milices, y compris le Hezbollah, et d'autre part la Russie. Donc ça, c'est les deux tiers du pays. Vous avez la fameuse poche d'Idleb dont on a parlé et dont on a entendu des extraits, qui est partagée entre ce qui reste des révolutionnaires se sont réfugiés là, et effectivement des milices islamistes dont la plus forte, Hayat Tahrir al-Sham, HTS, qui a été mentionnée par un des manifestants lorsqu'il parle de Jolani. Alors c'est une milice qui était anciennement affiliée à Al-Qaïda, qui dit avoir rompu avec Al-Qaïda, mais qui est considérée comme fondamentaliste. Vous avez la Syrie kurde, qui est une Syrie autonome, autogérée par des milices kurdes soutenues par l'appareil militaire américain, en tout cas, même s'il a été largement allégé, mais qui reste présent. Et puis vous avez la Syrie turque, puisque la Turquie a s'est emparée de différentes zones du territoire frontalière, proche de sa propre frontière, et les a données en gestion à d'anciennes milices rebelles devenues extrêmement islamistes. Donc vous avez voilà ces quatre Syries-là, sachant que même la Syrie gouvernementale n'est pas sous le contrôle du gouvernement, de fait.
Marion Dupont.
Et alors justement, face à tous ces acteurs régionaux qui chacun essaye d'étendre leur influence, comment est-ce que le régime de Bachar el-Assad réussit à se maintenir coûte que coûte pour garder dans son giron ces deux tiers du territoire qu'il contrôle actuellement?
Il passe son temps à utiliser, enfin comme d'habitude, l'un contre l'autre. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un peu trop de Russie, il va voir les Iraniens en disant, vous voyez, c'est les Russes qui vont prendre le truc. Lorsque les Américains sont un peu trop présents, ils vont voir pareil les Russes en leur disant, vous voyez, les Américains sont là, il faudrait nous en débarrasser. En fait, Assad est un équilibriste permanent qui se maintient à travers un jeu où il essaye de dresser ses alliés et ses ennemis les uns contre les autres. Mais Hala peut-être l'expliquera mieux que moi.
Je sais pas trop comment il joue. Moi, je sais pas s'il joue ou si il est manipulé parce que par les uns ou par les autres. En fait, j'ai l'impression maintenant que il est un peu débordé par ses alliés qui le contrôlent complètement et il en dépend complètement, que de toute façon, ça lui est égal. L'important pour lui, c'est de rester au pouvoir. C'est de rester, eux, grâce à eux, il est là. Donc, d'obtenir le pouvoir à Damas et le business, les affaires qui vont avec, c'est-à-dire le pouvoir enrichissement de lui-même, de son clan, etc. Je ne sais pas quel est le jeu, parce que c'est vrai que les Iraniens et les Russes ne s'entendent pas toujours très bien en Syrie, qu'il y en a toujours un qui avance contre l'autre. Je ne sais pas combien Bachar al-Assad est celui qui... il a longtemps joué ça, et en effet, comme disait Christophe Ayad. Maintenant, j'ai l'impression qu'il est trop faible pour ça, qu'il est plutôt dépendant. Il est trop dépendant pour avoir le moindre jeu autonome.
Justement, pour essayer de comprendre, dans ces deux tiers du territoire contrôlé par Bachar al-Assad, l'influence, quand on parle de présence russe et iranienne, quand on parle d'influence, très concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire peut-être aussi sur la question de l'économie, de la présence physique sur place de combattants, cette présence, cette influence, elle se manifeste comment, très concrètement, avant de parler du contexte régional, mais voilà. En Syrie, l'emprise ou le parrainage, comme on dit parfois, russe et iranien, il se manifeste de quelle manière, Christophe Ayad?
Il est d'abord et avant tout militaire. C'est-à-dire, la Russie contrôle les airs. Il n'y a pas d'armée de l'air syrienne, tout simplement. C'est la Russie qui décide en tout cas dans la zone gouvernementale, qui agit quand ou quoi. Et d'ailleurs, la Russie parle directement avec Israël lorsqu'Israël effectue des frappes. Israël prévient les Russes, puisque Israël passe son temps à essayer d'affaiblir la présence iranienne. La présence iranienne, elle est au sol.
Ce sont des milices, des combattants.
Des milices, mais aussi directement des représentants des Pasdaran, les gardiens de la révolution, qui ont en gestion des bases aériennes, des bases de missiles, et quant aux milices, elles sont là pour tenir le terrain. En appui de l'armée syrienne qui, chaque fois qu'elle essaye de faire quelque chose, s'effondre. C'est une armée très corrompue, très mal équipée, elle-même morcelée en milices, etc. Donc régulièrement, il faut des milices iraniennes, pro-iraniennes, chiites venues d'Irak, chiites venues d'Afghanistan et même du Pakistan, qui viennent en appui lorsqu'il y a des offensives ou lorsqu'il faut tenir un village, effectuer des checkpoints, etc. Puis vous avez le Hezbollah qui a beaucoup, Hezbollah libanais donc, qui a beaucoup aidé le régime Assad à reprendre le terrain, mais qui a beaucoup allégé son dispositif au profit non plus de troupes de combat, mais d'une sorte de profondeur stratégique vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire le Hezbollah a implanté des bases, là aussi, de missiles, de drones, d'observation, des caches d'armes, etc., sur le Golan, à la frontière, mais assez profondément jusqu'à Palmyre et plus loin encore, où il a entreposé des hommes et surtout des moyens logistiques, des missiles, en prévision d'un éventuel conflit avec Israël. Après, c'est pas une présence que vous voyez comme ça tous les jours, à part autour par exemple, autour de Sayed Azenab, le tombeau chiite révéré, le tombeau d'une descendante du prophète révérée par les chiites. Là, il y a une présence carrément irano-libanaise qui est très perceptible. Mais les bases russes, c'est pas des endroits où on rentre. Donc, les Russes, on voit des conseillers passer de temps en temps dans les ministères, etc. Mais c'est pas une occupation au sens quotidienne et physique sur le terrain.
C'est un contrôle de l'État et de ses institutions.
C'est un contrôle des leviers de l'État et surtout de ses institutions sécuritaires.
Marion Dupont.
À la Khomeini, si du coup Bachar el-Assad n'a qu'une armée très affaiblie, le budget de l'État a chuté considérablement et s'est élevé à 3,6 milliards de dollars en 2022, vous disiez tout à l'heure qu'il s'occupait essentiellement de business. Quel est ce business auquel il se livre actuellement?
C'est un business qui s'est réduit comme peau de chagrin, parce qu'à un moment donné, évidemment, contrôlait pratiquement tous les ressorts économiques et commerciaux du pays. Il avait sa part dedans. Maintenant, évidemment, vu les destructions, vu l'activité complètement écroulée, il n'y a plus grand-chose. Mais il reste des poches où on peut profiter, qui sont assez diverses, certaines liées à la guerre et à l'aide internationale, parce que l'aide internationale passe, enfin, une partie est certainement confisquée ou par la corruption du régime, redistribuée par ses services. Et puis, alors, la nouvelle manne, qui est extraordinaire, qu'ils ont trouvée ces dernières années, pour faire rentrer, justement, relever les finances du clan et non pas de l'État, c'est le trafic de drogue. Le trafic de ce fameux Captagon, qui est un...
Drogue de synthèse ?
Oui, une drogue de synthèse. Oui, c'est une amphétamine très, très répandue, qui coûte pas grand-chose, qui est fabriquée en Syrie, où il y a des vrais... les usines sont notamment sur la côte syrienne. Il y a le Hezbollah qui en fait fabrique aussi. Mais là, avec une production massive de Captagon, et qui se vend très bien, notamment vers les pays du Golfe, qui inonde les pays du Golfe avec ça. Et c'est vrai que c'est un commerce qui rapporte énormément et qui permet d'entretenir les forces de sécurité, les milices locales, etc. Tout ce qui n'est pas directement financé par l'État, lequel État est un petit peu complètement en banqueroute.
Cette question du Captagon, elle inquiète depuis quelques années les États voisins, notamment les pays du Golfe, vous le disiez, puisque c'est en partie là que s'écoule la drogue et qu'elle pose tout un tas de problèmes. L'année dernière, la Syrie a été réintégrée dans le giron de la Ligue arabe et il y avait cette préoccupation mise en avant d'exiger au régime Assad qu'il fasse cesser ce trafic de drogue. Il y avait aussi l'espoir que les réfugiés syriens puissent rentrer en Syrie. Qu'est-ce que la Ligue arabe et en particulier les États du Golfe ont obtenu de Bachar al-Assad depuis un an après l'avoir réintégré dans la Ligue arabe ?
Rien. Tout simplement rien. La preuve, c'est que la Jordanie a mené des raids à sa frontière pour frapper des trafiquants qui sont tout ce qui est de plus c'est des trafiquants étatiques, quoi. C'est-à-dire après, la Syrie a une vieille habitude de trafic de drogue. Il y a eu la drogue de la Beka à une époque, le cannabis, l'héroïne qui ont été gérés par l'armée syrienne, et là l'armée syrienne continue, puis ça lui fait de l'argent, et au point que, comme je disais, la Jordanie a mené des raids à sa frontière et à l'intérieur même de la Syrie contre des bases de fabrication ou des lieux de passage et d'entrepôt.
Marion Dupont.
Est-ce la raison pour laquelle cette réintégration de la Syrie de Bachar al-Assad dans la Ligue arabe n'a pas vraiment l'air d'avoir débouché sur un dialogue politique ou sur de véritables partenariats économiques d'importance depuis l'année dernière ?
À la Côte-Manie ?
Oui. Non, il n'y a rien eu. Il y a vraiment... Je crois que à la base, déjà, Mohammed bin Salman, le prince héritier saoudien, voulait avoir son premier sommet arabe et il fallait que tout le monde soit là. Donc, pour la photo, il a invité Bachar al-Assad, entre autres. Bon, les autres avaient aussi normalisé, mais il n'y a pas aucune normalisation. Dans le sens que, effectivement, comme Christophe disait, il y a... D'abord, Bachar al-Assad n'est prêt à rien donner. Il va rien donner, ni sur le Captagon, ni sur les réfugiés, ni sur quoi. Il veut prendre, mais pas donner.
Mais donc c'est quand même étonnant, parce que le régime est quand même plutôt en position de faiblesse, on l'a dit, économiquement, militairement. C'est quand même étonnant que le reste du monde arabe n'ait pas essayé d'utiliser cette réintégration comme un levier de pression pour obtenir quelque chose. Comment expliquer cette asymétrie de rapport alors que le régime est plutôt...
Ils n'ont pas réussi. Parce que il n'y a rien à faire avec eux. Avec... Et Bachar al-Assad, ça lui est égal de faire reconstruire la Syrie aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est pas sa priorité. Continuer le trafic du Captagon est beaucoup plus important que reconstruire Alep.
Ou même de sortir de l'isolement
ou de sortir de son isolement. Non, ils sont contents, ils aiment bien emmener madame et aller en belle tenue et débarquer à Abu Dhabi et être reçu, etc. Il y a un côté, oui, c'est sûr que ça compte pour lui, que les tentatives de normaliser, mais vous voulez normaliser, ce sera à mes conditions, ce sera en mon état. Personne n'a réussi à lui poser des conditions, ni les Arabes, ni les Européens, parce que il n'y a pas vraiment de levier. On peut plus. C'est un pays déjà détruit. C'est un régime complètement affaibli. Qu'il a les Russes et les Iraniens, de toute façon, qui sont obligés de le soutenir. Il est une pièce dans le puzzle régional qui compte. Les pays du Golfe essayent de récupérer un peu la Syrie. Pour affaiblir un peu l'Iran, pour l'influence iranienne, c'est clair et net. Sinon, de toute façon, ils n'ont pas mis un sou, les pays du Golfe en Syrie. Les Émirats qui ont rétabli leurs relations depuis 3 ou 4 ans n'ont pas mis un sou pour la reconstruction ou pour quoi que ce soit.
Christophe Ayad ?
Non, il y a une chose, on mentionnait tout à l'heure la présence des alliés un peu pesantes. Il y a une chose qu'on ne voit pas et qui est un phénomène fondamental de transformation de la Syrie, c'est le foncier. C'est-à-dire que les alliés, et en particulier l'Iran, font payer très cher leur soutien à la Syrie d'Assad en récupérant du terrain. Des terrains constructibles, des terrains qui ont une vraie valeur, qui sont notamment dans les quartiers autour de Damas qui ont été entièrement rasés, détruits, etc. On voit des opérations immobilières. Alors, comment dire, être projeté, se faire non, parce que l'Iran n'a pas du tout assez de capital. Aujourd'hui, l'économie iranienne est très affaiblie elle-même par tout un tas de sanctions américaines. Mais le terrain, lui, il est transféré. Et il est transféré à des investisseurs iraniens. Je pense que les Émirats, ça les intéresserait à terme, à très long terme. Mais donc là aussi, je pense qu'ils prennent du terrain. Quant à reconstruire, c'est autre chose. On n'en est pas là. C'est pas un pays où on peut attendre des bénéfices à court terme, comme l'Égypte par exemple, où là, quand on achète du terrain, on construit immédiatement parce que c'est un pays où on aime aller en vacances, que ce soit les gens du Golfe ou les Européens, et où on a un retour sur investissement. Mais il y a une véritable vente à la découpe de la Syrie qui a commencé bien avant la guerre, mais qui là a pris des proportions absolument phénoménales.
Alors il y a les forces iraniennes et leurs supplétifs chiites, il y a les pays arabes et du Golfe qui tentent de remettre pied en Syrie, de conduire, comme vous le disiez, à la Khodmani, ces forces-là. Et puis il y a aussi Israël qui mène régulièrement des frappes sur le sol syrien visant des bases de la République islamique d'Iran et du Hezbollah. Elles se sont intensifiées depuis le 7 octobre et la guerre à Gaza. Aujourd'hui, quels sont les objectifs stratégiques d'Israël en Syrie, est-ce qu'il s'agit de détruire ou d'affaiblir durablement des milices comme le Hezbollah, ou est-ce qu'il s'agit de les dissuader d'ouvrir un nouveau front au nord d'Israël ? Christophe Ayad ?
C'est un peu les deux à la fois. C'est-à-dire affaiblir l'infrastructure avant un éventuel conflit, et le plus possible, sachant que la partie d'en face est un peu paralysée. Il n'y a pas de désir du Hezbollah ni de l'Iran d'entrer dans un conflit régional majeur avec Israël, parce que dès le début, ils ont compris que l'allié américain était là et qu'il était là massivement, à travers ses porte-avions en Méditerranée, mais aussi dans le Golfe Persique. Et donc, Israël profite un petit peu de ce parapluie américain pour intensifier ses frappes qui effectivement se sont multipliées et pour viser des objectifs plus élevés. C'est-à-dire que pendant 1-2 ans, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Israël tuer un haut gradé iranien en Syrie, ce qui a été le cas. le chef des Pasdaran, le chef des gardiens de la révolution en Syrie, a été tué au mois de novembre ou décembre, si je me trompe pas, dans une frappe aérienne. Et ils en profitent parce qu'ils savent aussi qu'Assad est très prudent, très peureux dans ce contexte. Il n'a pas envie d'être déstabilisé.
Marion Dupont.
C'est ce que j'allais vous demander, Christophe Ayal. C'est pareil, enfin, vous pouvez aussi répondre à la Côte-Manie. Pourquoi est-ce que Bachar al-Assad n'a pas réagi alors que les frappes israéliennes sur la Syrie s'intensifient depuis le déclenchement de l'offensive le 7 octobre ?
À la Côte-Manie ?
Parce que là, il n'a pas, de décision souveraine.
Il ne maîtrise plus sa politique étrangère.
C'est tout simplement pas lui qui commande. Mmh. D'abord, il n'a aucune envie d'entrer en conflit avec Israël. Et même, ce qui est étonnant et ce que j'ai remarqué depuis le début du conflit à Gaza, c'est qu'il n'y a même plus la rhétorique. Bachar al-Assad ne s'embarrasse même plus de déclarer que les Israéliens sont vraiment de très méchants, qu'il a il veut soutenir les Palestiniens. Non.
Parce que historiquement, la cause palestinienne pour la Syrie, ça a été quelque chose d'assez structurel.
En tout cas, verbalement.
En tout cas, verbalement.
Ils se sont vantés pendant des dizaines d'années que, bon, eux, ils font pas la paix avec Israël, eux, c'est la ligne de front, eux, ils gardent le combat ouvert et qu'un jour, on va voir ce qu'on va voir. Et on n'a jamais rien vu. Ça a marché, cela dit, auprès des Palestiniens, c'est terrible. Parce que les Palestiniens ont tellement besoin de croire qu'il y a un pays arabe frontalier qui ne fait pas la paix avec Israël et qui ne les abandonne pas, qu'ils ont cru que Bachar el-Assad ou son père même allait faire quelque chose pour eux. Oui, donc, je crois qu'il n'a juste aucun intérêt à une confrontation, quelle qu'elle soit, et de toute façon, c'est pas lui qui décide. Surtout sur ce chapitre-là.
Christophe Ayad.
Il n'a pas les moyens, surtout. C'est-à-dire que il n'a pas d'armée de l'air et il n'a pas de défense antiaérienne sérieuse. C'est les Russes qui tiennent la défense antiaérienne et la maîtrise des airs. Donc, un conflit qui impliquerait Israël en Syrie serait un conflit direct avec la Russie et l'Iran. Ça, c'est enclencher une guerre régionale, voire mondiale. Personne n'en a envie, pour le moment.
Vous le disiez tout à l'heure, la Russie maîtrise les airs, maîtrise l'espace aérien syrien. Ils se parlent directement avec les Israéliens qui préviennent lorsqu'ils mènent des frappes sur des cibles iraniennes. Pourquoi la Russie laisse-t-elle ces frappes se faire ?
Parce que la Russie, elle aussi, elle a plusieurs fers au feu. Évidemment, elle est proche de l'Iran en termes de fourniture d'armes, on l'a vu en Ukraine, hein, c'est des drones iraniens qui ont été achetés par la Russie et qui ont permis de rétablir un peu l'équilibre en termes de bataille des drones, qui avait été largement remporté pendant la première année par les Ukrainiens. Là, il y a une forme de rééquilibrage grâce aux fournitures iraniennes, mais l'Iran se voit comme une grande puissance, la Russie aussi. Et il n'est pas question de se mettre à la remorque de l'autre. Donc, si on peut laisser donner un coup, pourquoi pas ? Je veux dire, ça montre aux Américains qu'on n'est pas non plus des ennemis permanents tout le temps sur le pied de guerre avec Washington. Donc, parce que derrière Israël, il y a Washington, en fait. Donc, voilà, c'est un jeu extrêmement machiavélique où tout le monde est machiavélique. Assad l'est, les Iraniens le sont, les Turcs le sont, les Russes le sont, et chacun essaye de prendre un petit avantage, et s'il peut donner un coup de pied ou laisser donner un coup de pied au voisin, il se gênera pas.
Vous disiez tout à l'heure, ni la Russie ni l'Iran ne souhaitent une confrontation d'ampleur avec Israël. Depuis le 7 octobre, on pose quand même régulièrement la question d'un risque d'embrasement dans la région. Et c'est-à-dire que selon vous, ce risque n'est pas réelle, puisque visiblement les grands parrains ne souhaitent pas cette confrontation, ou bien est-ce qu'il l'est quand même quand on voit, et là je reviens à nouveau sur le Hezbollah, les tensions qui ont eu entre la frontière libano-israélienne, comment le Hezbollah utilise la Syrie comme base arrière militaire pour se renforcer. Voilà, quel état des lieux vous faites quand même de ce risque-là?
Le risque, il n'est pas souhaité, mais il est réel. Il n'est pas souhaité parce que personne trouve que c'est le bon moment pour entrer dans une confrontation majeure. Le Hezbollah, parce que il a une opinion intérieure au Liban, qu'il sait que le Liban est déjà dans un super mauvais état et qu'une guerre ne ferait que le détruire encore un peu plus. Israël, parce que deux fronts en même temps, c'est pas forcément une idée. Et puis parce que les Américains s'y opposent, n'ont pas envie d'un embrasement général, et donc c'est comme c'est eux qui fournissent les armes, y a quand même une forte, y a un frein. Mais le risque est réel parce qu'il y a des accrochages quasi quotidiens à la frontière entre Israël et le Liban. Israël est allé de plus en plus loin dans ses frappes du Hezbollah et a dépassé la zone frontalière, est allé jusqu'à Beyrouth, jusque dans la vallée de la Beka pour frapper des objectifs stratégiques, des personnalités de très haut niveau. Et le Hezbollah est obligé de répliquer pour maintenir un niveau suffisant de dissuasion. Sinon, c'est une forme de défaite avouée. Et or, le problème dans cette histoire-là, c'est qu'un jour, s'il y a un missile du Hezbollah qui tombe, pas de chance, sur une vingtaine ou une quarantaine de civils israéliens, là, vous serez dans un engrenage qu'on ne pourra plus maîtriser. Parce que l'opinion israélienne est pour une guerre aujourd'hui. Et c'est ça qu'on réalise mal, c'est que l'opinion israélienne considère que le Hezbollah est un super Hamas à sa frontière. Donc il n'est pas question de se laisser menacer par le Hamas, il n'est pas question de se laisser de vivre sous la menace du Hezbollah qui pourrait faire la même chose que le Hamas en pire.
Vous écoutez Culture Monde, Christophe Ayad et Alaa Kodmani sont nos invités pour parler de la Syrie 13 ans après la révolte du printemps arabe et dans le contexte inflammable que l'on sait au Proche-Orient. Et comme chaque semaine, nous sommes en partenariat avec Cartooning for Peace, cette association de dessinateurs du monde entier. C'est la bulle cartooning.
Il fait le clown !
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux !
Assis !
Et le dessin qui nous est parvenu cette semaine est signé Emad Ajaj, un caricaturiste jordanien. C'est une bouteille en verre du type de celle qui renferme un message de SOS lancé à la mer dans l'espoir que quelqu'un l'y trouve. Et dans celle-ci, une foule compacte de personnes qui manifestent. On les voit lever le poing, brandir des pancartes, scander des slogans. Ajaj a laissé les bulles et les panneaux en blanc, sans écriture, mais on devine la colère, l'espoir, les revendications. La bouteille tremble sous l'effet de ceux qui s'agitent à l'intérieur, mais un solide bouchon empêche les cris de sortir. Un bouchon en forme de tête de mort, surmonté d'une casquette militaire flanquée d'un drapeau syrien. Jusqu'à quand tiendra-t-il? C'est la question que semble poser ce dessin et auquel je voudrais vous faire réagir à la Kodmani. Un dessin qu'on peut trouver pour les auditeurs sur le fil Twitter de l'émission et sur la page de Culture Monde.
Oui, non, c'est un très beau dessin, c'est très significatif, c'est très bien résumé, oui, on est un peu ça. Parce que je ne sais pas si c'est si explosif. Il y a de plus en plus de résignation, de découragement, de déprime profonde dans la population. Bon, on a vu quelques manifestations là à l'occasion de l'anniversaire, avec l'exception dont j'ai parlé de la montagne russe. Mais il faut savoir que la situation économique des Syriens est aussi dramatique que celle des Égyptiens ou des Libanais, ou avec une inflation terrible, avec des infrastructures qui sont affaiblies. Il n'y a pas à Damas même. Il y a des coupures d'électricité, on a l'électricité 3 à 4 heures par jour, ce qui est quand même pareil, il y a des pénuries de tout. Donc les gens sont accablés, sont juste accablés, ça fait trop longtemps que ça dure, ils souffrent depuis plus longtemps. Et bien sûr c'est ça aussi qui bénéficient au régime de Bachar el-Assad. C'est que bon, il n'y a plus, ils ont tout essayé, ça n'a pas marché. Et puis là, on est accablé. Il n'y a pas. C'est vraiment une chape de plomb, mais une chape de plomb même pas par la répression, par le découragement et l'accablement qui touche toute la population, que ce soit dans les camps de réfugiés où il y a des déplacés, ou que ce soit dans les villes où les gens sont restés chez eux quand même. Il manque de tout, il n'y a pas d'horizon.
Marion Dupont, pardon.
Oui, non, je voulais juste continuer sur ce sujet. Le fait que le programme alimentaire mondial de l'ONU a mis fin à l'aide alimentaire en Syrie en janvier 2024, faute de fonds, alors que, comme vous le dites, la situation est déjà dramatique sur place. Et donc cela, n'encouragerait pas la contestation, mais plutôt une forme de fatalisme.
Christophe Ayad, rapidement.
Oui, moi je suis pas... Je pense exactement comme Hala Kodmani. Je suis pas très optimiste sur le fait qu'une révolution est possible en Syrie. C'est fini. Elle a eu lieu. Elle a été écrasée dans le sang par le régime, détournée, salie par les islamistes. Donc la révolution aujourd'hui, elle est en exil. Elle est chez ces 7 millions de Syriens qui ont quitté leur pays et qui essayent de construire quelque chose en exil. Qui ressemble à un espace démocratique, du dialogue, de la mémoire, etc. Des choses extrêmement importantes, mais dont on ne verra pas le résultat dans un avenir très proche en Syrie.
شوق عم يقتلني من جوع عم ياكلني يما تعا أودلني اللي طريقك وين وبصحوتي وبنومي كل لحظة من يومي عايش قنت في عايش قنت فيك وبصحتك وبصحت شنوني عم بشتاق لك وانت قبال عيوني وبصحتك وبصحتك
avec la voix du chanteur syrien Hazem Sharif, aujourd'hui basé au Liban, que l'on termine cette émission. Merci beaucoup à tous les deux, à la Kodmani, journaliste à Libération. Je rappellerai votre ouvrage « Seul dans Raqqa » paru aux éditions des Équateurs. Christophe Ayad, grand reporter au journal Le Monde, merci beaucoup également. Votre ouvrage « Géopolitique du Hezbollah » aux presses universitaires de France à paraître en début de semaine prochaine. Merci beaucoup Marion Dupont de nous avoir accompagné. Lundi, c'est Julie Gacon que vous retrouverez pour une nouvelle série sur l'avenir des accords de libre-échange. Nous irons en Asie comprendre les enjeux du RCEP, la plus grande zone de libre-échange au monde, en Afrique où la ZLECAF veut ranimer la flamme du panafricanisme, aux États-Unis où le libre-échange a de moins en moins bonne presse, et puis on commence lundi avec l'Europe, Mercosur, CETA, quand l'Union multiplie les partenaires. Et dans un instant, les midis de culture.